n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon...
Il va y avoir du sport en ce lundi 1er juin. Et oui, ça y est, c'est le 1er juin. Je règle un petit peu mon micro à mes côtés. Eh bien, il y a monsieur Mika.
Salut à tous.
Bienvenue. Il y a également Yves qui est de la partie.
Salut à tous.
Salut Yves. Et puis, émission Il va y avoir du sport exceptionnelle juste avant Radio Vélo, vu qu'en studio, eh bien, nous avons nos amis de Media Pitchoun, l'association toulousaine Media Pitchoun, qui est à nos côtés avec Laurent, que l'on salue, mais aussi avec Mazarine, avec Jade, avec Banou et avec Ayette. Voilà, donc bienvenue à tous. Bonjour.
Bonjour. Merci.
Bon, les médias Pitchoun du côté de Boulogne ce soir pour faire un petit reportage, notamment sur Radio Vélo tout à l'heure. Le site des médias Pitchoun, vous le retrouvez bien évidemment sur Internet, et les médias Pitchoun sont aussi sur les réseaux sociaux, mais ils font plein d'autres choses. Est-ce que tu veux expliquer en quelques mots, Ayette, qu'est-ce qui se passe avec les médias Pitchoun dans cette association? Qu'est-ce que vous faites?
Ben, en fait, on est une association de jeunes qui se situe à Bagatelle. Et on fait un peu de tout, comme vous avez dit. On fait des émissions sur Internet. On écrit des petits articles aussi. Et cette année, par exemple, pour le Tour de France, eh ben, y a un groupe qui a fait des notices. Donc, chaque année, en fait, y a un projet. Ça parle de quelque chose. Là, ça parle des terres du Tour de France, en fait, avant.
D'accord.
Où le Tour de France va passer.
Le Tour de France avant, à l'époque où c'était avec les routes qui n'étaient pas encore des routes, c'est ça?
C'est ça, oui.
Bon.
La terre entre les routes et la terre.
On suivra tout ça. Peut-être que Jade, tu veux nous dire un petit mot là-dessus, parce que tu es déjà allé, toi, au Tour de France ou
alors,
pas?
Alors, non. Donc, c'est ma première année, mais bon. Donc, je vais essayer d'expliquer le mieux possible.
Yves, il va relever un peu ton micro si tu veux le mettre un peu vers le haut, là. Hop. Voilà, condition du direct, bien évidemment.
Voilà.
Alors
pour le Tour de France, ça fait 6 ans qu'on a un projet. Donc, le Tour au pied des tours. Et l'année dernière, c'était la guerre de 14-18. Et cette année, c'est l'archéotour. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant pour les supporters des cyclistes de savoir ce qu'il y avait à proximité des routes où passaient les cyclistes, donc comme des temples, des églises, des quartiers gaulois, romains, gallo-romains même. Donc voilà. Donc chacun a pris un site archéologique sur les routes du Tour de France. Donc on a pris 2 étapes, Van Plumelec et l'Admesan Plateau de Bayle. Et sur ces étapes, on va faire un petit atlas où chacun a travaillé dans un magazine qu'on distribuera sur le Tour de France.
Ok, Ayette, tu es déjà allée au Tour de France?
Oui, moi ça fait 2 ans que j'y vais. Donc l'année dernière, comme elle a dit, Jade, on a travaillé sur 14-18. Et il y a 2 ans, on a travaillé sur... c'était la 100e édition. Donc,
voilà. Impeccable. Bon, vous avez déjà fait pas mal d'interviews. Est-ce que peut-être, avant de partager toute l'émission dont Yves va nous donner le programme dans quelques instants, est-ce que c'est qui la personnalité que vous avez préférée en interview, la star que vous avez pu interviewer? Non, Mazarine, tu débutes, c'est ça, hein?
Oui.
Ouais.
Oui.
Bon, donc je te donne pas la question.
c'est pas facile en plus.
Donc moi aussi, j'ai pas connu beaucoup de sportifs, mais Simone Petit, donc le gagnant de la Ronde de l'Isère.
La Ronde de l'Isère.
Était très sympathique et naturel.
Très sympa, et puis peut-être future star. Banou, toi, tu as déjà fait un peu des interviews ou pas? Non? Pas
non,
trop?
Pas trop.
Pas trop, bon. Il y a quelqu'un que tu aurais envie d'interviewer? Un sportif ou pas? Pas forcément?
Non.
Non? Bon, mais
personne,
t'as raison. Tu verras bien. Et toi, Yette?
Donc moi, en parlant du Tour de France, moi j'ai beaucoup aimé interviewer Blel Kadri,
oui.
D'ailleurs, qui est le parrain de notre association.
Ah, il est adorable, Blel.
C'est ça. Et en sortant du cyclisme, Jérôme Fernandez.
Jérôme Fernandez, de handballeur.
Exactement.
Ça t'étonne pas, Yves.
Non.
Il est sympa comme tout. Bon, les médias Pitchoun, vous restez avec nous, bien évidemment, tout au long de cette émission, avec Laurent également qui a la vidéo. Dans Il va y avoir du sport, jusqu'à 20h, on a également Ludo. Ludo, je t'ai pas oublié, est-ce que tu nous entends au téléphone?
Oui, bonjour tout le monde. Je vous entends très bien. Et bonjour aux médias Pitchoun.
Bonjour.
Et ouais, c'était la petite surprise du soir sur CETA Radio. Et ils resteront bien évidemment avec nous pour Radio Vélo à partir de 20h. Yves, le programme d'Hiver du Sport.
Oui, on débutera avec Ludo par le rugby, avec le retour sur les deux barrages qui voient le Stade Toulousain et le Stade Français rejoindre Clermont et Toulon. En demi-finale du top 14, on s'y attendait un petit peu, ça a été plus facile pour le Stade Français, mais pour le Stade Toulousain, Dieu que ce fut dur. Et on parlera aussi évidemment de la nomination de Guy Novès. Alors c'est un secret de polichinelle, c'est bien Guy qui succédera à Philippe Saint-André à la tête du 15 de France après la Coupe du Monde. Et après la petite pause de sujet, sur le foot, c'était le week-end des Coupes Nationales, il n'y avait pas qu'en France où il y avait la Coupe de France, il y avait aussi en Espagne, c'était aussi en Angleterre, en Allemagne. Donc on verra l'intérêt que portent les gens sur cette compétition, peut-être qui était beaucoup plus suivie avant que maintenant. Et on finira évidemment par le tennis, comment ne pas en parler. Alors vendredi c'était l'explosion de joie, et puis aujourd'hui c'est un petit peu la soupe à la grimace côté français, parce que tous ceux qui se sont qualifiés en 8e, à part Tsonga, le reste c'est mal parti en tout cas.
C'est sûr qu'il faut bien faire les grands titres des journaux avec les Français qui sont au top pour le premier tour, parce qu'après au bout de 3 jours il n'y a plus personne.
On exagère un petit peu, mais c'est comme ça. C'est un peu comme ça.
Allez,
on va commencer directement par le rugby, et donc c'est match de barrage.
Bonsoir chers amis, la rubrique rugby.
Yves, c'était les barrages, et oui, pour se qualifier pour les demi-finales du top 14. C'était Stade Français Racing Métro vendredi soir.
Exactement.
Match que j'ai vu en entier. Ça va t'aboucher ou quoi?
Ça va faire longtemps que ça n'était pas arrivé.
Ça faisait longtemps. et puis le match entre le Stade Toulousain et Oyonnax samedi.
Samedi après-midi, tout à fait. Donc on le rappelle, c'est des barrages. Donc c'était le troisième Stade Toulousain contre le sixième du championnat Oyonnax, et quatrième Stade Français contre cinquième Racing Métro. Et pas de surprise, puisque le Stade Français a battu le Racing Métro 38-15 et le Stade Toulousain a battu Oyonnax 20-19. Mais que se fut pour le stade. Ludo, alors on va peut-être commencer par le derby francilien.
Oui, 38-15 donc pour le Stade Français. Alors je vais dire un véritable exploit fait par les joueurs du Stade Français, non pas d'avoir gagné, parce que ça, ils étaient favoris, on l'avait dit déjà la semaine dernière, mais quand même un exploit par l'ampleur du score. On n'aurait pas pensé avant la rencontre à un match aussi large de leur part, on aurait pensé à un score très serré. Et finalement, il n'y a pas eu de match, un match à sens unique. Le Stade Français a véritablement pulvérisé ses voisins du Racing, et ben notamment grâce à la mêlée.
Tout à fait, j'allais te le dire.
Très dominatrice du côté du Stade Français, c'est une de leurs gros points forts, quoi. Et puis aussi les contres en touche où ils ont été excellents. Et puis Mornestein, qui a véritablement retrouvé son meilleur niveau, digne du niveau qui faisait de lui un des meilleurs joueurs du monde quand il jouait notamment du côté de l'Afrique du Sud. Vendredi, il a mis 28 points sur les 38 marqués par son club.
Exactement. Donc, je pense que le point important du match, c'est vraiment la domination outrageuse du Stade Français en mêlée, puisqu'il y a eu plusieurs mêlées enfoncées. Enfin, c'était vraiment flagrant là.
Ah oui, flagrant. Le Racing n'a pas résisté. Par exemple, le pilier du Calcon complètement à côté de la plaque, et très grosse mêlée du Stade Français, un de leurs points forts. Et quand on sait qu'en phase finale, il faut un bon buteur, ils l'ont avec Mornestein, il faut une bonne défense, le Stade Français a une défense excellente, et quand on sait qu'il faut une bonne mêlée, voilà, ils ont toutes les bases pour aller le plus loin possible. On en reparlera de la demi-finale tout à l'heure contre Toulon.
Exactement.
Mais je mettrai bien une pièce sur le Stade Français, mais continuons à parler de ce match.
Mais ça, je te soupçonne, toi, supporter clermontois, de vouloir une défaite de Toulon à tout prix. Mais bon, en parle après. Et donc samedi après-midi, alors il y avait une ambiance un peu bizarre au stade Ernest Vallon, hein, puisque on savait très bien, même si c'était pas officiel, que ben ce serait sûrement le dernier match de Guinoves au 7 Deniers. Et alors est-ce que ça a joué un petit peu dans les esprits des joueurs du stade toulousain, peut-être un peu tendu, mais que ce fut dur, hein, et le stade n'est passé devant qu'à 5 minutes de la fin.
Oui, ça a été très dur pour Toulouse, mais un match intéressant à regarder, hein, justement, à cause de ce suspense de bout en bout. Pourtant, au bout de 15 minutes de jeu, si on regarde bien le match, Toulouse menait 6-0, ouais. Il dominait dans tous les compartiments, sauf en mêlée, hein, ça a été un petit peu le point faible aussi des Toulousains samedi à Ernest Vallon, mais sinon il dominait partout, dans le jeu il n'y avait pas photo, voilà, 6-0, il y avait 90% de possession de ballon pour les Toulousains au bout d'un quart d'heure de jeu, alors on aurait pu se dire que le match allait être vite plié, et ben il n'en fut rien, hein, et un petit peu à l'image de la saison du stade toulousain, un match en dents de scie, comme la saison a été pour eux, ils ont alterné le très bon, par exemple au début de match, la fin de match, et au milieu, ça a été très moyen, même inquiétant, hein, je sais même pas si, il me semble qu'ils encaissent l'essai d'Oyona à 2 minutes de la mi-temps, ouais. Je crois qu'Oyona joue à 14 à ce moment-là. Donc.
Tout à fait, et le pire c'est qu'au lieu de prendre la pénalité, ils prennent la pénalité touche et font du pick and go alors qu'ils sont à 14 contre 15. Donc ils se sentaient vraiment très très forts au niveau du pack et en mêlée.
Ah mais ça voilà, ça c'est la paturios, hein, des pick and go, des mêlées, on avance, on continue d'avancer et ça marche à chaque fois. Hein, voilà, ils ont réussi encore à marquer un essai comme ça à Ernest Vallon.
Bah là, le début du match du Stade Toulousain, comme tu l'as dit, a été très bon, mais ils l'ont concrétisé seulement entre guillemets avec 2 pénalités. Et je pense que s'ils avaient réussi à marquer un essai là dans les 20 premières minutes, là par contre ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ils n'ont pas mis la tête de Nax sous l'eau. Et résultat des courses, eh bien on s'est retrouvé à 19-15 pour Oyona à 10 minutes de la fin, et c'est un essai en coin à la 75e qui est venu sauver le Stade Toulousain.
Oui, ben justement, moi je dis que Toulouse, on l'avait dit la semaine dernière, hein, ils allaient passer grâce à l'expérience, et ils ont aussi passé grâce à l'apport du banc. Hein,
des jeunes.
La jeunesse toulousaine, ouais, ça j'adore, hein, parce que c'est un peu comme du côté de Clermont, on fait rentrer des jeunes, et ils ont fait un super match, hein, l'auteur de l'essai Cyril Bail, alors j'espère que j'ai bien prononcé les noms. Hein.
C'est pas mal.
Voilà, c'est pas mal.
Pour un Clermont, toi.
Voilà, oui, après il y a Galland, et alors après un autre pilier, un Dorian Aldegheri. Alors je sais pas si j'ai bien prononcé là par contre, mais ils sont là avec l'accent clairement, avec l'accent auvergnat. Et puis ouais, ils sont rentrés et ça a fait basculer le match. Et aussi mention pour Tekori, qui a été vraiment excellent au niveau du grattage dans les rucks. Voilà, quand le banc est rentré,
ça fait souvent la différence lorsqu'il y a une équipe qui est Oyonnax, ils ont à mon avis pas trop de remplaçants, et le Stade Toulousain, même si c'est jeune, a quand même un banc de qualité, et c'est cette fraîcheur qui est rentrée, qui est arrivée du banc qui a fait la différence, hein.
Il n'empêche que le Stade Toulousain peut être champion de France, messieurs.
On va parler de la suite, mais une prestation comme ça à domicile, les Toulousains face à Oyonnax, même si Oyonnax a fait une bonne saison, hein, finalement, ils auraient quand même dû leur mettre quand même. On voit le Stade français qui a mis un gros score au Racing, alors qu'on l'attendait pas là, le gros score.
Mais le Stade Toulousain avait déjà eu du mal, il me semble, contre Oyonnax aussi en phase régulière.
Ils avaient perdu là-bas, ils avaient failli perdre à domicile.
Exactement, pareil, une victoire d'un point. Ouais. On se projette sur le week-end prochain, donc ça démarrera aussi vendredi soir à 20h45, et ce sera le Toulon Stade français. Ludo, Toulon Stade français, donc évidemment Toulon encore évidemment grandissime favori, champion d'Europe, mais toi apparemment, tu l'as dit il y a quelques minutes, tu vois bien le Stade français avec cette énorme mêlée causer des misères à l'équipe de Bernard Laporte.
Ah oui, je pense que oui. Et puis non, mais moi je mets la pièce là-dessus. Stade français vainqueur de ce match. Bon, c'est le match, on va pas dire choc, hein, parce que Toulouse à SM c'est pas mal non plus, mais pour moi, Stade français vainqueur. Et même si Toulon passe, je pense que le vainqueur de ce match, moi, a de grandes chances de soulever le bouclier de Brennus la semaine après, parce que les deux clubs sont, je pense, plus complets, plus puissants, et actuellement plus en forme mentalement et physiquement, avec bien sûr des buteurs hors pair de courte et de longue distance, ce qui fait défaut peut-être notamment par exemple si on compare par rapport au Clermontois, ils ont des défenses aussi imperméables. Je pense que le vainqueur sera champion de France. Enfin, je souhaite bien sûr le contraire, mais bon, voilà, un peu mon pronostic. Et de toute façon, quel que soit le vainqueur de Clermont-Toulouse, voilà, on s'encouragera mutuellement, j'espère, messieurs.
C'est-à-dire que j'ai bien entendu, Ludo a dit le Stade Français va passer. Il a dit.
Et il a dit contre Toulon. Il l'a dit.
C'est quand même pas une évidence autant que ça pour moi. Enfin, moi j'ai vu le match là contre le Racing Métro, surtout le Racing Métro qui a été mauvais, quoi. Hein. Non?
Mais le Racing Métro, c'est un peu à la miage de leur saison. C'est pas.
Ouais, des deux côtés, il y a eu des bons buteurs, mais.
Pourtant, ouais, moi, c'est la déception, moi, comme chaque année, le Racing. Hein. Pourtant, ils ont des joueurs hors pair, hein, Sexton, Roberts, Phillips. Mais ils ont encore complètement raté leur aventure parisienne. Ils quittent d'ailleurs ce club par la très petite. Ils ne seront jamais véritablement intégrés au Racing. Non, mais le Stade Français, c'est costaud. Hein. Bon, il reste sur le banc, c'est que la phase régulière, mais il reste sur la victoire face à Toulon hein, en phase régulière.
Exactement. Mais après, moi, je vois quand même Toulon passer.
Expérience aussi.
Exactement. Après, et donc évidemment, dans l'autre demi-finale, on l'a dit clairement, ce sera samedi à 16h30. Alors, les deux matchs se déroulent à Bordeaux, et ce sera donc clairement Stade Toulousain. Là, on se demande comment le stade peut inquiéter Clermont, surtout si ils se réussissent pas un petit peu en mêlée. Hein.
Oui, la mêlée sera une clé du match. Alors apparemment, d'après les infos, Tchalata est incertain, on va dire. Il annonce forfait et Paul Luxé, mais bon, sur son compte Twitter, Tchalata, mais qui est OK pour jouer dimanche. Enfin, ça va être de l'intox hein, jusqu'au bout là dans la semaine, hein, parce que je crois que Floud aussi est touché. Harry Nordoki, toujours incertain. Ouais. Mais vous inquiétez pas, c'est pareil du côté de Clermont, parce que James Lopez, Cunemore sont aussi incertains. Donc on va voir... Il va falloir que Toulouse se ressaisisse oui, au niveau de la mêlée. Hein, clairement qu'il y a une bonne mêlée. Je pense que, alors je sais pas, une petite pièce pour les Clermontois quand même. Hein, bon, c'est pas à cause que je suis...
si, quand même un peu.
Mais bon, une petite pièce, surtout si Toulouse fait les prestations qu'ils ont fait ces dernières semaines. Voilà. Une prestation contre Oyonnax et à Grenoble.
À Grenoble aussi, tout à fait.
À Grenoble, vous avez été inexistant. Ou contre même à domicile contre Bordeaux, où Bordeaux aurait dû plier le match 1000 fois.
Exactement.
Et si Clermont joue au niveau qui est le sien durant la phase de Coupe d'Europe, mise à part la finale, bien entendu, qu'on a une nouvelle fois perdu. Mais si Clermont joue à ce niveau-là, Toulouse a aucune chance. Mais bon, est-ce que le traumatisme de la finale de Twickenham sera vraiment évacué du côté de Clermont? Ça, c'est la question. Et voilà, on aura la réponse samedi soir. Hein.
Mais Clermont, ce qu'ils savent faire le mieux, quand même, c'est perdre. Donc je pense que le Stade Toulousain va aller en finale. Par contre, moi, j'aimerais bien que ce qu'a dit Ludo se réalise, c'est-à-dire que le Stade Français aille en finale, au moins Toulouse serait champion de France, qui serait complètement incroyable. Mais bon, pour moi, Toulon reste le grand favori. Il n'y a pas de raison qu'ils aient tout perdu leur qualité après avoir encore trop fêté un titre.
Eh bien, on verra ça.
Bon, de toute façon, l'entraîneur de Toulouse, Guy Novès, voilà. Ça peut être son dernier match. Cette demi-finale,
c'était presque ce dernier match contre Yona.
Ça a été annoncé, donc il sera le sélectionneur du 15 de France. Depuis le temps que c'était un fantasme dans la région toulousaine, ben là c'est du concret. Ça va bien se dérouler.
Ben moi, comme je l'ai déjà dit, hein, parce qu'on avait, ça fait un petit moment qu'on en parle. Moi, je trouve que ça arrive peut-être un peu tard. Il est en fin de cycle, ça se voit maintenant au Stade Toulousain. Il aura 62 ans. Il y avait quand même des coachs de qualité plus jeunes. C'est presque pas un choix par défaut, parce que bon, c'est vrai qu'il a quand même été, c'est l'année où il a été le plus critiqué au Stade Toulousain. Et voilà, pour moi, ça arrive 4 ans, au moins 4 ans trop tard. Ludo.
Ouais, mais voilà, on en avait déjà parlé. Yves, je suis d'accord avec toi. 4 ans, même 8 ans, oui, trop tard.
Quand t'avais dit 8 ans.
Voilà, et comme on l'avait dit, enfin avec toi, Yves, moi pour moi c'était Galtier Ibanez qu'il fallait mettre. Mais attention, hein, Guy Novès, moi, le meilleur technicien qu'on a en France, hein, de toute façon. Hein. Le palmarès, pour lui, c'est un super manager et meneur d'hommes. Il s'entoure toujours très bien. Alors il sera entouré de Yannick Bru pour les avants et Jeff Dubois pour les trois quarts. Là, ça va faire un trio de choc. Il y aura les résultats, mais voilà, j'aurais bien aimé voir un petit peu avant, il y a quatre ans ou 8 ans, mais ça va marcher, hein, il y a pas de souci. Je lui fais confiance. Hein.
Allez Ludo, on va devoir faire la coupure déjà dans 9 secondes, c'est ça, dans rien du tout, 10 secondes, c'est cuit là.
Quand.
Ludo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, coup de chapeau à Bordeaux qui a gagné à Gloucester, oui. Et donc qui fera la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Bonne chose.
Voilà.
7 clubs sur 14 font la Coupe d'Europe en rugby, c'est fabuleux.
C'est parce qu'on est trop bon en France.
Ouais, voilà.
Bon, eh ben, on va suivre tout ça. Ouais. En tout cas, Guinovès, il y a rien à perdre avec le 15 de France.
On verra. Il y a la Coupe du Monde entre temps.
Il y a pas de raison. On va pas faire du lièvrement à chaque fois, là, aller en finale, alors que c'est pas prévu. Bon. On va faire la première coupure pub. On revient avec les médias pitchouns. Je vais leur trouver une petite question, là, pendant la pub, quand même, pour les embêter un peu, si Laurent me l'autorise. Et on revient tout de suite après sur cette radio. Bougez pas.
C'est ta radio. Pop. Rock. Sport. C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Allez, on continue l'émission, les enfants. Non, je dis ça pour Mikaï, vous êtes sages, mais non. Bien sûr, en direct jusqu'à 20h dans Il va y avoir du sport. Et puis, Radio Vélo à partir de 20h. On est toujours avec l'équipe des médias pitchouns que vous pourrez retrouver sur leur site internet, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout sur les routes de la Ronde de l'Isard, les routes du Tour de France, mais aussi les stades. On a Mazarine, Jad, Banou et Ayet avec nous. Bon, on va parler de foot. Là, Yves, il a un petit débat sous le coude. Mais avant ça, est-ce que vous y êtes allé vous voir un peu le TFC cette année au Stadium, Jad?
Oui, on a vu quelques matchs et on a visité les locaux pour quelques interviews.
Bon, impeccable. Ayet, toi aussi?
Oui.
T'as fait quelques interviews, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant de découvrir les sportifs.
C'est ça, ça fait toujours plaisir.
Bon, et toi, Banou, non, pas trop le foot, c'est ça? Tu préfères le hand?
Oui.
Bon, t'as été voir le hand quand même cette année? Une fois, tu penses? Bon, tu vérifieras que c'est bien le cas. Hein. Je plaisante. Et Mazarine, toi, plutôt l'escalade. Alors là, par contre, j'ai pas de questions parce que je les connais pas, les mecs qui font l'escalade. Tu en pratiques, en fait? Tu en fais?
Ben, j'en faisais. Et puis maintenant, j'essaie d'en refaire, mais...
C'est pas facile.
Ouais.
Bah, Yves, l'autre fois, il essayait de rentrer par le studio, là, par la fenêtre.
C'était compliqué.
Je pense que c'est grand. C'est pas facile. Et la natation, tu m'as dit, toi aussi, Jade, c'est ça?
Oui, la natation.
D'accord. Eh bien, figurez-vous qu'au téléphone, on a quelqu'un qui joue au badminton, un grand sportif de badminton. C'est Nico depuis Chartres. Nico, est-ce que tu nous entends?
Bonsoir, messieurs. Salut à tous.
Voilà, donc Nico qui était professionnel en badminton à une époque, mais c'est plus le cas.
Entre ses 3 et 4 ans.
Voilà, il peut pas se défendre.
Il a repris à 25.
Bon, on a un petit débat, Mika. Est-ce que t'as quelque chose sous le coude, là? Parce que ça va pas rigoler. Parce qu'encore ce week-end, heureusement, il y avait Roland Garros et d'autres sujets, notamment Guinovès, section Riquet de France et tout. Mais sinon, on aurait mangé du Le PSG et le plus grand club de tous les temps, vu qu'il a gagné 2 coupes nationales et un modeste championnat.
Bon, et le trophée des champions.
Et le trophée des champions.
Quadruplé.
3 fois 6 sous. Mais remettons un petit peu l'église au milieu du village, comme disait Onesta à l'époque, dans Costantini. Et bon, Yves, qu'est-ce que ça vaut les coupes nationales?
Eh ben ça c'est la question qu'on se pose. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ben le football n'était pas ce qu'il est devenu. Donc du coup, il y avait beaucoup moins de matchs télévisés et la finale de Coupe de France, c'était un événement. Maintenant, eh ben tous les matchs sont télévisés, il y a la Coupe d'Europe, l'Europa League, la Coupe de la Ligue, on voit les matchs étrangers et puis on a l'impression que cette Coupe de France, eh ben elle est au milieu de tout ça, Nico.
Ça perd de sa saveur, mais ça perd de sa saveur depuis de longues années.
Oui, oui.
Le PSG n'a rien à voir là-dedans. Donc,
tu connais Nico, c'est toujours la faute à Paris.
Oui,
de toute
façon. Parce que Paris gagne beaucoup, et parce que Paris enchaîne les victoires et les trophées, on met le PSG en avant, mais cette Coupe de France qui a été un petit peu masquée, qui a perdu de son aura vis-à-vis aussi de la Coupe de la Ligue, hein, qui est un peu plus priorisée par les clubs, vu qu'elle rapporte plus et qu'elle qualifie pour le même stade l'année suivante.
Il y a moins de matchs à gagner.
Voilà, il y a moins de matchs à gagner que des clubs professionnels. La Coupe de France, avec cet esprit amateur, entre guillemets, elle passionne beaucoup moins. D'ailleurs, il n'y a que les deux coupes sont diffusées sur France Télévisions, qui récoltent que les miettes des droits télé du football.
Et puis, comme tu dis, c'est la coupe amateur, mais finalement, depuis quelques années quand même, avec le PSG, Monaco, Marseille, enfin, il y a des clubs quand même de Ligue 1 qui sont solides et suffisamment solides avec une bonne profondeur de banc que les amateurs maintenant, on les voit plus trop dans les phases finales et donc c'est quand même moins intéressant.
Ouais, non, malgré ça, je dirais que le PSG, justement, en Coupe de France, ça arrive loin, enfin, ça la gagne, mais les années précédentes, justement, les clubs de haut du panier, ben, n'y arrivaient pas, quoi, ça les intéresse pas.
Oui, non, ça ne les intéresse pas. On met une équipe B.
Ça fait tourner tout le temps.
Voilà, on met une équipe B, on est pendant 3 ou 4 tours. Les clubs pro mettent une équipe B d'entrée. D'ailleurs, les gardiens, ce sont les second gardiens qui jouent. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont la coupe juste pour jouer un petit peu dans ces gros clubs. Donc voilà, c'est pas pris au sérieux directement. Et ça ne passionne que quand une équipe amateur arrive à se hisser parmi les demi-finalistes, voire la finale. Là, ça devient intéressant, mais...
Mais là, Auxerre, c'est pas tout à fait une équipe amateur, du coup.
Non. Alors, c'est un peu trop pro pour être vraiment pris au sérieux, entre guillemets.
Un peu trop pro, mais pas assez. Du coup, c'est quand même une petite surprise, hein, pour parler vite fait du match. Ce 1-0, et Paris Saint-Germain est en difficulté, hein.
Oui, parce qu'ils n'ont pas pris véritablement au sérieux cette équipe d'Auxerre, voilà, qui a fait de son mieux, mais qui, au final, perd 1-0 face à un but de Cavani... Qui est encore une fois très très important dans les matchs décisifs du côté du PSG, d'ailleurs, ce qui peut remettre en cause le mercato du Paris Saint-Germain.
Mais il en a besoin de combien pour en marquer une? Mais encore samedi.
Peut-être, mais
en Coupe de France ça passe. Ouais, mais Nico,
il est décisif de plus en plus. C'est quand même lui qui marque les buts importants.
Je suis d'accord avec toi, mais en Coupe de France ça passe parce qu'il y a beaucoup d'occasions. On l'a vu en Coupe d'Europe, ça a été beaucoup plus compliqué.
Ah, ça va être le débat. Ça va être le débat pour l'intersaison du côté du PSG.
Nico.
Oui, non, du côté du PSG, ils peuvent plus faire mieux, là. Oui, bon.
C'est on va lui fermer le micro, sur tout le monde.
Parce que, alors, moi, je veux pas.
Non, mais c'est pas pareil dans tous les pays. Mais c'est vrai que nous, on opposait il y a quelques années, quand la Coupe de la Ligue était vraiment matraquée, à juste titre, on opposait la Coupe de la Ligue à la Coupe de France. Bon, dans l'imaginaire, on comprend bien que la Coupe de France a plus de prestige parce que, tous les clubs amateurs, écrivent ces lettres de noblesse, hein, c'est sûr. Fait. Mais dans les autres championnats, c'est pareil, il y a plusieurs coupes et surtout la coupe nationale a parfois beaucoup plus de valeur.
Notamment en Angleterre, c'était aussi le week-end de la Coupe. Pareil, il y a deux coupes en Angleterre comme en France. Et là, c'était la finale de la Coupe et c'est Arsenal qui a battu Aston Villa 4-0, Nico.
Oui, l'Angleterre, c'est encore un petit peu différent. Il y a tellement de concurrence en championnat que les clubs qui jouent les 5e, 6e, même 4e place ou 3e place comme Arsenal sont à fond sur les autres coupes parce qu'il faut des titres, il faut des trophées à la fin de la saison. Et ça reste très très important, surtout pour les supporters qui sont beaucoup plus, à mon avis, la coupe anglaise est toujours gagnée par un club pro. Il y a rarement des clubs amateurs en demi-finale du côté de l'Angleterre.
Non, pratiquement jamais.
C'est quand même pris beaucoup plus au sérieux.
Mais disons qu'il y a beaucoup de matchs en Angleterre, et donc du coup deux coupes avec l'autre coupe, il y a des matchs aller-retour. S'il y a des matchs nuls, c'est pas les pénaltys, il faut refaire le match. Ils jouent à Noël, donc il y a tellement de matchs qui font que ceux qui se jouent le titre, les premiers deuxièmes font souvent énormément tourner. Comme Chelsea, on l'a vu, qui s'est fait éliminer par une deuxième division, je crois, cette année. Et du coup, ça laisse la porte, comme tu le disais, à ceux qui ont déjà perdu le titre au mois de janvier, février, comme Arsenal tous les ans pratiquement.
Et puis en France, ça n'intéresse pas vraiment non plus. Parce que qu'est-ce qu'il y a au bout de la coupe, des coupes, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France? Il y a une place en Europa League qui intéresse personne. Donc, financièrement, je pense pas que gagner une Coupe de France ou Coupe de la Ligue, ça apporte grand chose au club. Donc, ni financièrement, ni sur l'enjeu des compétitions de la saison suivante, il y a un titre. Mais voilà, c'est tout.
Oui, c'est pas grand chose. Mais, effectivement, voilà, le problème c'est ça, c'est que ça n'intéresse. Et puis l'esprit de clocher, finalement, avec le monde un peu moderne, il a tendance à disparaître. Ce qui faisait aussi le charme de la Coupe de France.
Avec la mondialisation, et tu l'as dit, la médiatisation. Elle se perd un petit peu, cet esprit de clocher.
Exactement. Alors en Espagne, c'est encore différent, puisqu'il n'y a pas de Coupe de la Ligue. Il y a juste la Coupe du Roi. Hein, au niveau de la formule, elle ressemble un petit peu à notre Coupe de la Ligue, puisque les clubs pro rentrent très tard, et notamment ceux qui sont engagés en Coupe d'Europe rentrent directement en 8e de finale. Donc du coup, ça les avantage énormément, et il n'y a jamais, jamais, jamais de club de 2e division en finale de la Coupe du Roi. Jamais.
C'est quand même très très solide. Le Barça a gagné 3-1 face à Bilbao, moi j'ai envie de revenir là-dessus, avec un but de Messi assez exceptionnel. 50 mètres ballon au pied.
Sur le côté.
4 ou 5 joueurs de dribblé, crochet, grand pont, enfin une orgie incroyable de football. Quel but de Messi qui est arrivé à 7 jours de la finale de Ligue des Champions, il va arriver en pleine bourre.
Une réaction du côté des médias pitchoun, Ayet, Messi.
Tu l'as vu le but?
C'est un copain à toi ou c'est
oui,
mon but?
Je l'ai vu le but, non, mais il est phénoménal. C'est pas pour rien qu'il est le meilleur joueur du monde dans ce
Ah, c'est lui le meilleur joueur du monde?
Ah, bah oui.
Ah, ouais, c'est pas un mec du TFC Le goal là dont on parlait tout à l'heure.
C'est pas comparable.
Bon.
Non, c'est vraiment. C'est vraiment le roi du foot, mais
le roi du foot, ça ferait un beau titre pour les journaux, ça.
Le but qu'il a mis, c'est pas tout le monde qui le met.
Bon, est-ce que vous voulez que Laurent vous amène à Barcelone une fois interviewé Messi? Ouais. Vous lui mettez ça comme défi de l'année,
juste
là?
Juste ça. Juste ça.
Bon, eh ben on lui met ça comme défi. Hein, une fois qu'il aura fini d'épurer toutes les courses cyclistes, il vous amènera à Barcelone.
C'est ça.
Exactement. Et d'ailleurs, ce but, ben, ça a été un petit peu le leitmotiv de cette année où, avec l'arrivée de Luis Suarez, il a été un petit peu déporté sur le côté droit. Et moi, ça m'a rappelé les chevauchées qu'il faisait, notamment à l'époque de Richcard, entre 2006 et 2009, où il jouait à droite, juste après.
Les chevauchées de Ronaldinho, bien qu'il était meilleur. Un chevauché nocturne.
Ronaldinho, c'était côté gauche. Et il y avait Messi côté droit juste après l'époque de Ludovic Giuli, et ça ressemble beaucoup à ces buts qu'il marquait en partant du côté gars, en rentrant intérieur sur son pied gauche, notamment un qu'il avait marqué contre Getafe où il en avait éliminé 7, et ça me rappelait un petit peu cette période là
c'est impressionnant le pic de forme dans lequel il est revenu à son niveau pratiquement Messi.
Oui.
On a eu peur quand même, hein. On a eu peur de plus le revoir à un tel niveau, et ça passe avant tout par ce collectif là
Ouais, vas-y Nico.
Non, quand le Barça est très fort collectivement et on le voit défensivement, Messi est tout à son aise.
Non, ça me fait rigoler parce que Messi, c'est vrai qu'il est toujours au top. C'est vrai que Contador, on ne sait pas s'il va faire Giro-Tour, mais
pas
Messi,
toujours.
Il ferait Giro-Tour Vuelta avec les médecins du Barça. Hein.
Ah. Pas toujours. Il a été moins bon. Quoi. D'ailleurs, ça se voyait physiquement. Il a perdu. Il avait grossi. Hein. C'est un Argentin, amateur de grillades.
Voilà.
Et de bonne viande, Messi.
On a percé son secret.
Et du coup, en Espagne, c'est quand même la dernière compétition, c'est la Coupe du Roi. C'est quand même la compétition que le club, soit le Real, soit le Barça, met en avant quand il n'arrive pas à gagner les autres compétitions, comme l'avait fait Mourinho ou vice-versa. Mmh. C'est souvent le troisième.
C'est une consolation.
Exactement, le troisième couteau. Et c'est très rare, d'ailleurs, que les doublés soient faits. Il y en a eu très, très peu dans l'histoire espagnole. Je crois qu'à Barcelone, c'est seulement la troisième fois qu'ils font le doublé dans toute leur histoire, donc c'est très peu.
Alors qu'ils rentrent en huitième et qu'il n'y a qu'une coupe, donc ils pourraient quand même se concentrer pour la gagner. Quoi.
Exactement. Mais c'est aller-retour là-bas par contre.
C'est match aller-retour, mais il n'y a qu'une coupe. Exactement.
Et en Italie, ça compte aussi?
Ouais, en Italie,
c'est toujours les seconds couteaux, Fiorentina, Inter, tout ça. Là, hein.
Pareil, Nico, c'est quand même beaucoup moins important.
Ouais, pas énormément de doublés, hein. C'est pas si. J'ai pas le nom du vainqueur italien. Je sais pas s'ils ont joué la.
Ah, c'est la Juve.
C'est la Juve.
Mais pareil, on en a un peu parlé parce que c'est en milieu de semaine et c'est la Juve qui a gagné. Donc le vainqueur de la semaine prochaine de la finale Ligue des Champions réalisera le triplé dans son pays.
Oh. Comme
le PSG. Ouais. Et on peut parler aussi. C'était aussi la finale rapidement pour clôturer la finale de la Coupe d'Allemagne. Et malheureusement, parce que c'est un entraîneur que j'aime bien, Jürgen Klopp ne partira pas de Dortmund en leur laissant un titre, puisqu'en finale ils ont perdu face à Wolfsburg 3-1 ce week-end.
Ouais, ils perdent face à Wolfsburg et Klopp qui était annoncé dans beaucoup de clubs, en tout cas sur le marché des transferts, a dit qu'il prenait une année sabbatique avant de replonger, donc à voir pour la suite. Mais oui, c'est un entraîneur vachement pris et très très intéressant à regarder dans un autre club.
Ouais, il était pressenti notamment pour le Real Madrid, mais ce sera Rafael Benitez, entraîneur de Naples.
Mais la grosse blague. Hein.
La boulette, non?
C'est dramatique.
Surtout au niveau du jeu, moi Benitez, c'est pas quelque. Alors c'est un ancien du Real, il a joué au Real B, il vient du club, il connaît l'intérieur du club, mais moi ça n'a jamais été un entraîneur qui m'a fait vibrer Benitez.
On a l'impression qu'il prépare le terrain même pas un an pour Zidane derrière. Je ne vois que ça comme peut-être possible explication, c'est-à-dire qu'on met un entraîneur peu médiatique, pas très intéressant, qui va produire un jeu très très moyen. Très défensif, et Zidane va arriver en grande pompe, c'est ce que veut Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il va arriver en grande pompe derrière, un an et demi plus tard, et il va se poser tranquillement à ce poste, et ça va redorer encore le blason du Real. Et sincèrement, Benitez qui arrive au Real Madrid, l'effectif et Cristiano Ronaldo en tête, il doit faire une drôle de tête. Hein.
Oui, parce qu'il était Carlo Ancelotti était très aimé et ça a surpris énormément. Hein. C'est vraiment une décision présidentielle de changer d'entraîneur, puisque les observateurs, les journalistes, et on sait le poids des periodistas, comme on dit, des journalistes espagnols est important, et des joueurs, même Cristiano Ronaldo a tweeté, a défendu Carlo Ancelotti. Mais ça n'a rien fait, c'est le président qui décide, Florentino Pérez, et on verra ce que ça donne l'année prochaine.
Bon, j'ai un bon souvenir du côté de Valence quand même, alors je vais rester là-dessus moi sur Rafa Benitez, mais c'était il y a longtemps. Après, dans les grands clubs, en effet, il n'a jamais réussi. Il était après à Naples, c'était pas mal. Hein,
bah, il a fait quand même gagner la Ligue des Champions à Liverpool.
À Liverpool, c'était exceptionnel. Mais pareil, c'est pas avec des clubs tout premier plan. Bon, Liverpool, c'est premier plan.
Ça leur donne Benitez, mais dans le jeu,
mais pas pour les stars. C'est pas fait pour les stars.
Eh bien, on va clôturer cette page football pour passer au tennis. On en reparlera du foot parce que la semaine prochaine, samedi prochain, c'est la finale de la Ligue des Champions, Barça-Juve. Et là, déjà, la pression monte.
On appellera Paul Pogba la semaine prochaine.
Exactement. Allez, Mika, on va passer au tennis. Et Roland Garros avec ses Français qui étaient bien en première semaine. Et malheureusement, comme d'habitude, ça se tasse un peu, hein, ce début de deuxième semaine.
Bon, est-ce que les médias pitchoun suivent Roland Garros? Ayet, est-ce que tu suis Roland Garros?
Oui, ça va, je suis un peu. Moi, je suis plus pour les filles. J'arrive pas à lire leur prénom, mais ça va.
Ouais,
elles se débrouillent bien.
Ouais, ils les choisissent pour les magazines, surtout là-bas. Hein,
ouais, c'est vrai.
Tu suis, Banou, le tennis?
Non, pas trop.
Pas trop, bon.
Il n'y a que le handball.
Que le handball. Et Jade?
Ben moi, c'est pas trop mon délire. Je,
pas trop ton délire.
Pas du tout.
Tu préfères les sports collectifs, peut-être?
Ben non, loin de là, c'est plutôt les sports plutôt individuels.
Toi, tu es le vélo?
Mais le tennis, c'est pas trop mon truc.
Non, c'est marketing, le tennis. Mazarine, le tennis, t'aimes plus?
Moi, non.
Non, hein, bon. Mais Laurent, il suit le tennis? Ouais, bof. Il y a pas de temps.
Ah ben, c'est pas avec eux que la France Télévision fait leur meilleur score.
Que si vous cherchez les Français sur les cours de tennis, il faut surtout être là le premier week-end à Roland Garros, très important.
C'est les qualifications.
Ben là, on est lundi 1er juin, mais il y en a plus qu'un. C'est Joe Wilfried Tsonga qui jouera contre Nishikori et va sûrement perdre parce que Nishikori c'est un des gros outsiders du tournoi. Tiens, des jolis scores assez nets et sans bavure. Djokovic Gasquet 6-1, 6-2, 6-3. Qui dit mieux?
Ça vient de tomber. Hein.
Propre.
Qui dit mieux, c'est propre et sans bavure. Après, bon, ben, il y a eu d'autres dérouillés. On va pas vous les citer en détail. Quand même, mon fils a réussi à prendre un set à Federer, ce qui est honorable, mais derrière, il prend 6-4, 6-5.
C'est parce qu'il faisait nuit, c'était hier soir.
C'est parce qu'il faisait nuit. Voilà. Mais bon, encore une fois, les journaux ont quand même réussi à s'enthousiasmer au bon moment, Nico.
Oula, on a eu droit à une séance de French bashing exceptionnelle à l'instant. Hein. Préparer la magnéto, c'est magnifique, Nico.
Alors, je sais ça bien. J'ai l'expérience ces années après les années.
Hein. Tu t'attendais à quoi de plus?
Voilà. Rien.
On a fait un récapitulatif la semaine dernière dans l'émission.
On les avait dit, c'est huitième de finale. Hein. Tous. Hein.
On avait dit huitième de finale. On avait dit huitième. Moi, je trouve que Tsonga fait le bel exploit de la quinzaine côté français en battant Berdic. Et en réalisant un superbe match, il a une chance exceptionnelle de tomber contre Nishikori en quart. Il a la place pour aller en demi, c'est même pas sûr. Et le reste, on s'attendait à rien du tout.
C'est la sortie de Bouchard, pas Mladenovic, on en avait parlé, on l'avait senti.
La seule surprise, voilà.
C'est dommage qu'elle tombe derrière contre une inconnue. Mais...
Alors parce que c'est souvent comme ça. Ouais.
Si on reprend le magnéto de l'émission de la semaine dernière, il y a aucune surprise hein, dans le tableau homme. On avait annoncé Djokovic Nadal, ça arrivera, hein, c'est fait. Nadal est qualifié.
Mais là les 8 je les avais.
Exactement. Et il y a Murray qui a battu Chardy aussi tout à l'heure. Donc Murray Ferrer c'était fait. On avait dit le vainqueur de Tsonga Berdych face à Nishikori.
Pour moi Tsonga Nishikori c'était fait aussi parce que Berdych il était pas bien là et d'ailleurs le match contre Tsonga bon. Il n'a pas eu à se forcer, Tsonga. Je veux pas être rabat-joie, mais bon.
Ben ouais, mais quand même, c'était quand même. Enfin voilà, on connaît
le. Il fallait le faire.
C'est pour moi, voilà, c'est le seul Français qui a réussi à battre un top 8.
Mais je suis moins copain avec son gars depuis l'histoire de Coupe Davis. Là,
il y a toujours, ça va jamais avec Nico.
Pas sur Kinder Bueno.
Mais, parce que c'est ça, Nico. Moi, je trouve quand même qu'il y a eu, effectivement, t'as raison, faut pas non plus exagérer de leur taper dessus tout le temps, mais moi, je trouve que vendredi soir, il y a eu un petit peu, un optimisme exacerbé un petit peu.
C'est une arnaque.
Voilà, parce que finalement, tous ces Français sont dans les 16 meilleurs. C'est-à-dire que c'est normal qu'ils arrivent à 8, voilà, leur niveau, c'est les huitièmes de finale. L'exploit, c'était là. Et voilà, le seul exploit, finalement, ça a été Tsonga. Et là, maintenant, effectivement, Tsonga, il peut aspirer à quelque chose.
Non, mais tout à fait. Et on tombe même pas dans le panneau, parce que franchement, de les voir en huitièmes, tu l'as dit, c'est tout à fait logique. Ils sont à domicile tout de même. Ils ont le public derrière eux. Ils font le job en arrivant.
C'est
en
les autres années où c'était le problème. C'est quand ils n'y arrivaient pas, même en huitième.
Mais oui. Non, mais il n'y a rien de surprenant. Et on a une génération moyenne, moyennasse, entre guillemets. Et on a son gars qui se hisse encore. C'est plutôt bien. Mais voilà, aucune surprise. Vaut mieux regarder les autres adversaires et regarder ce qu'on fait depuis le début de la quinzaine, Djokovic et Nadal.
Bon.
Pour être plus intéressant.
Justement, Nico, l'info cette année de Roland-Garros 2015, c'est que dans le tableau, messieurs, la finale a lieu en quart de finale.
Ouais, l'info, c'est est-ce que Nadal est à la hauteur après ces différents matchs-là? Est-ce qu'il est à la hauteur par rapport à Djokovic? Je ne suis pas certain qu'il ait été beaucoup bousculé jusque-là. S'il est exceptionnel face à Djokovic, s'il sort Djoko en quart de finale, messieurs, on peut sortir le gros questionnaire, le gros débat, parce que là, il nous aura embrouillé pendant des mois et des mois, il aura été quand même très très moyen, et s'il sort un énorme match mercredi après-midi, on va bien rigoler.
Donc, pour moi, même, tout est possible.
Oui. L'arnaque du siècle, s'il arrive à sortir Djokovic en quart de finale.
Mais tout est possible avec Nadal à Roland-Garros, hein, c'est un extraterrestre. Par contre, quand même, face à Sock, l'américain, il a eu du mal
en milieu de match. Ouais. Il a perdu un set, alors que Djokovic, lui, par contre, n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi.
Djokovic, il déroule.
Et a plutôt déroulé, donc effectivement... Djokovic semble le grandissime favori, mais voilà, contre Nadal, on le rappelle, seulement battu une seule fois.
Et mentalement, par Djokovic, ça va être dur.
Roland-Garros,
Roland-Garros, mais c'est comme si tu vas autour et tu te tapes Hino, Indurain, Armstrong. Non, même s'ils sont plus du tout en condition, les mecs, c'est pas bon. c'est pas bon pour toi.
Exactement, le parallèle est bon au milieu des années, sans savoir ce qui s'est passé, etc., mais au milieu des années Armstrong, quand il a gagné le 4e.
Mais Armstrong, il revient, Froome, il doute, là, à côté d'Azor, il doute.
Quand on était au 4e et 5e tour, ben effectivement, les adversaires automatiquement doutent. Hein.
Pas fait de vélo depuis un an, tu doutes.
Et là, Djokovic, je pense qu'il doute face à Nadal.
Je suis pas sûr.
Ou peut-être qu'il a passé le grand cap et tout le laisse penser ça.
Moi, je pense surtout que c'est Nadal qui doute, hein, parce que Nadal, il a pas gagné contre des gros depuis un petit moment. Donc, je pense que Nadal, quand il y aura Djoko en face, avec la forme qu'il a, je pense pas que ce soit Djoko qui doute cette année. Hein.
Oui, Nico, tu.
Ouais, je regarde le tableau de Nadal là, depuis tout à l'heure. Nadal a sorti Alice, 296e joueur mondial, Almagro, 154e, Kuznetsov, qui est 120e, Sock qui est 37e mondial. Enfin, bon,
il monte en puissance.
Oui, on peut dire.
Là, ça va lui faire bizarre d'un coup.
C'est pas mieux du côté de Djokovic.
Il
a l'assurance des dernières semaines. Il a l'assurance des titres et des, on va dire, des 6 derniers mois. Nadal, il a pas grand chose derrière lui.
Moi, je mettrai quand même une petite pièce sur Nadal.
Ça vaut le coup, ça vaut des sous, Mika.
Ouais, mais moi non.
Allez, pour clôturer rapide, en parlant peut-être un peu des filles, des Françaises, on les a encore plus critiquées que les garçons la semaine dernière, donc on peut rendre hommage.
Alizé Cornet, est-ce qu'elle passe encore le bac? Parce que chaque année, ils en parlent de ça.
Et donc Alizé Cornet qui est arrivée en huitième de finale et qui a été battue par Svitolina 6-2, 7-6, mais elle était plutôt contente et la surprise a été plutôt Mladenovic qui au premier tour tombait contre Bouchard, on en a parlé, et qui l'avait éliminé.
Bouchard qui n'était pas en grande forme quand même, hein. Avec les derniers tournois, c'était la fausse surprise finalement.
Mais quand même,
c'est une perf. Elle est à retenir parce qu'elles sont très très rares, surtout dans le tableau féminin. Chez les filles, c'est vrai que la loi du classement est très très souvent respectée, surtout chez les Françaises. Hein. Coronet qui fait un 8e, ça n'a rien d'exceptionnel. Égal à elle-même, sortie de Sharapova aujourd'hui.
Voilà, exactement. La grosse surprise, elle est là.
Ouais, surtout ça.
Nico, la sortie de Sharapova.
Sharapova qui se fait sortir tenante du titre, hein, Sharapova qui perd sa Safarova qui est pas non plus est exceptionnelle depuis le début de la saison. Donc Sharapova est quand même sortie, c'est impressionnant. Et Serena Williams, dans l'autre partie du tableau, n'est pas exceptionnelle.
Non.
Et bien bougée, et elle perd un set sur deux matchs. Hein. Là, c'était deux matchs d'affilée qu'elle perd un set. Elle doit batailler en 3-7 à chaque fois. C'est pas gagné. Hein. C'est certes, bon, le tableau semble maintenant tout à fait clair et facile pour Williams.
Ça sent la finale contre Ivanovic.
Ouais, attention tout de même. On peut avoir une surprise cette année du côté des femmes. On avait bien placé Williams et Sharapova. C'est peut-être pas sûr dans cette deuxième quinzaine.
Et puis comme on l'a dit, il y a eu des éliminations surprises, hein, comme la numéro 3 mondiale roumaine que l'on connaît bien, même si tout le monde la connaît pas en effet, Alep. Mais c'est vrai, il y a vraiment une surprise qui est possible, comme à l'époque où c'était il y a 2-3 ans où l'italienne était allée au bout. Hein, je sais plus si c'était.
Chavonne,
voilà, je dire une bêtise.
Mais c'est dû au fait surtout que Serena Williams semble un petit peu en difficulté, disons moins sereine plus qu'en difficulté. Nico.
En effet. À voir, parce que bon, apparemment Safarova, sortie Sharapova, est plutôt très costaud. On a Pennetta également, l'italienne dans le tableau, qui est une spécialiste de la terre.
Irani, hein, en quart de finale, Irani, ça va pas être facile pour Serena.
On l'a déjà vu, Irani, dans cette partie de tableau et assez loin dans la compétition. Ivanovic, elle revient quand même de très très loin. C'est très très ouvert, hein.
C'est ouvert
qu'on le pense.
C'est ouvert chez les filles.
Eh bien, on verra ça la semaine prochaine. On en parlera parce que il y aura quand même des bons matchs. Ce Djokovic, Nadal, moi, il me tient haleine. Et puis chez les filles, voilà, comme tu l'as dit, on est pas loin d'avoir une belle surprise. Et donc, on va clôturer cette partie tennis maintenant, Nico.
Bah oui, on va fermer la boutique. Je voulais voir si j'avais les cotes à vous donner quand même,
on va pas perdre d'argent.
Ça vous intéresse.
Ça n'a plus rien.
On
a les poches vides.
Ça m'intéresse jamais. Est-ce que je les ai? Oui, je les ai quand même. Djokovic, vainqueur du tournoi, c'est 1,65, autrement dit rien du tout. Nadal, 3,80. Et après, vous avez Murray, 6,50. Nishikori, 7,50. Federer, 8.
Ça veut dire que celui qui passe est champion de Nadal, Djokovic.
Ce qu'on savait.
Il sera contre un quart de finale,
Nadal,
mais c'est les deux.
Nadal, après, une fois qu'il aura battu Djoko, surtout s'il prend 5-7, quelque chose comme ça risque d'être compliqué à enchaîner quand même.
Non, physiquement.
Mais pour les bookmakers, confirmation qu'il n'y a pas photo entre Nishikori et Tsonga, comme je vous le disais quand même.
Pour.
Nishikori, il peut gagner. C'est l'un des quatre favoris pour gagner le tournoi.
Il a fait de super résultats dans les Masters 1000. Donc, du coup, pour moi, Nishikori est largement favori contre Tsonga. Hein.
Allez, on va suivre tout ça. Et avant de retrouver l'équipe de Radio Vélo, les Extra Time.
Exactement. Allez, on va partir pour
ce week-end. Les Extra Time avec l'équipe toujours des Media Pichoun qui suit toute la soirée avec nous en direct. Ils vont aller interviewer certains membres de l'équipe de Radio Vélo. Et avant de donner nos petits Extra Time, Yves, du côté de Media Pichoun, est-ce qu'il y a un Extra Time, est-ce qu'il y a un clin d'œil que vous voulez faire?
C'est ça, on voulait passer un petit clin d'œil à notre chouchou Sofiane Oumia. Donc on le parraine. En fait, c'est un joueur de boxe. Il a 18 ans et il va jouer cette année au JO de Rio. Et il est meilleur.
Il ira aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
C'est ça.
D'accord.
Et il est meilleur espoir français.
D'accord. Pour la boxe.
Pour la médaille, c'est ça, pour la boxe.
D'accord. Donc encore quelqu'un à suivre. Et donc il est de Toulouse.
C'est ça. Il est de notre quartier à Bagatelle. Il s'entraîne à Bagatelle.
D'accord.
Donc.
Bagatelle où le Tour de France arrivera l'année d'après, c'est ça, en 2017.
C'est ça, normalement.
On l'espère.
Voilà, en tout cas, je sais que vous œuvrez beaucoup pour cela et bien évidemment, Radio Vélo vous soutient aussi dans ce sens pour 2017. 2017, c'est pas l'année des présidentielles, c'est l'année du Tour à Bagatelle.
C'est exactement. Ça. On espère parce que ça fait bien quelques années qu'on bosse sur ça. C'est un peu ça notre objectif. Et on est prêt à remuer ciel et terre, probablement.
Oh, c'est beau. C'est le sprint final, en tout cas. Il vous reste 2 heures. Merci les médias Pitchoun, en tout cas, d'avoir passé cette heure avec l'équipe Ivoire du Sport. Et vous restez pour Radio Vélo, les Extra Time.
Exactement, les Extra Time. Alors moi, je vais commencer. Y a un jeune là qui me dit qu'il est fan de handball. Et bien, ce week-end, c'était la finale de la Ligue des Champions de handball. Et évidemment, et qui sait qui a gagné pour la 9e fois la Champions League? C'est Barcelone. Barcelone avec Sorrento notamment et Nicolas Karabatic qui ont battu Vespren. En finale de Ligue des Champions 28-23, et c'est la 9e fois Nico qui sont champions d'Europe,
et surtout Karabatic et Sorrento qui deviennent détenteurs à la fois du titre olympique, du titre mondial, du titre européen et du titre européen de club. Donc 4 détenteurs de voilà, ils ont les 4 plus gros titres à leur actif en ce moment même. C'est assez hallucinant. Quel palmarès et quelle longévité, surtout pour ces deux garçons. Et c'est assez impressionnant quand on sait que Nicolas Karabatic va débarquer du côté du Paris Saint-Germain cet été. On attend ça avec impatience.
Et Nicolas Karabatic qui devient le joueur à avoir gagné 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, on le rappelle, Montpellier, Kiel et maintenant Barcelone.
Quelle bête.
Eh oui, donc c'est un exploit. 9e fois que Barcelone, un club omnisport, voilà, basket, handball et foot, bien évidemment. Alors, après, extra time, qui c'est qui s'y colle, Mika?
Ouais, moi je vais lancer Nico sur le Giro peut-être, et sur le week-end cyclisme qui vient de se dérouler, sur les dernières semaines. C'est Alberto Contador qui confirme son état de forme actuel, qui a annoncé, je crois, sa présence sur la route du Sud, sur les routes pyrénéennes très bientôt. Donc il va faire la route du Sud entre le Giro et le Tour de France. Moi je me posais la question suivante, c'est... Dans quel esprit va-t-il faire cette route du Sud? En gros, c'est quoi? C'est garder la forme? Il faut surtout pas trop se donner sur la route du Sud? Est-ce qu'il va vouloir la gagner? Est-ce qu'il va vouloir juste rouler? Ça se passe comment dans ce cas-là?
Là, c'est compliqué. Il est à 4 semaines du départ du Tour. Enchaîner 2 grands tours, ça se fait de moins en moins. Du moins, ça se fait de moins en moins quand on veut gagner les 2 grands tours. Et Alberto Contador, donc là, il a 2 semaines où il va d'abord devoir souffler, récupérer quelques jours et se remettre tout de suite au boulot. Et dans 2 semaines, il fait la route du Sud. Dans 3 semaines, il y a les championnats nationaux. Je ne sais pas s'il y participera. Et dans 4 semaines, donc, il y a le départ du Tour. La route du Sud, il va la faire surtout pour reprendre la compétition. Ça ne dure que 4 jours. Il y aura quand même la grosse étape des Pyrénées le samedi où il aura l'occasion d'être dans l'école. Mais Contador, il ne va pas se mettre dans le rouge à la route du Sud. Il vient pour rouler en peloton, pour garder
le décrassage un peu.
Garder le niveau. Non, il faut qu'il soit sûr que tout fonctionne bien à l'intérieur. Quoi.
Mais, pour garder le rythme.
Pour garder le rythme, mais bon, il vient pas pour gagner la route du Sud, ça y a très peu de chance.
D'accord. Et par contre, moi j'ai une petite question parce que j'ai vu quand même en difficulté entre guillemets dans ce Giro, notamment par son manque d'équipe.
Ouais,
équipier.
Ça m'a beaucoup surpris.
On peut dire qu'il l'a gagné tout seul.
Il l'a gagné tout seul.
Parce qu'Astana, par contre, ils étaient 3, 4, 5 selon les étapes.
Et oui, finalement, il n'y avait plus
finir
patron.
À 2.
Il n'y avait
plus patron, ce qui peut-être leur fait perdre, enfin, peut-être pas perdre le Giro, mais être plus proche de Contador notamment.
Si Landa n'avait pas été si fort, Aru aurait peut-être gagné le Giro, en effet.
Oui, ou vice-versa.
Pas forcément, parce qu'on n'avait pas prévu que la Damon sur le podium,
exactement.
En tout cas, oui, Contador, grosse surprise. Il faut dire que dans son équipe, il y avait quand même des super coureurs comme Ivan Basso, qui avait été recruté pour l'aider. Il finit 51e à 2h52. Oui, mais il était censé l'aider, quoi. Enfin, Michael Rogers, qui est là sur le tour avec lui. Après, il y aura Rafał Majka, qui sera là autour. Lui, c'est celui qui a fini meilleur grimpeur. Il y aura Benati comme capitaine de route. Faut voir, mais c'est vrai que j'ai été très surpris de cette mauvaise équipe. En tout cas, il a fait un très très gros Giro, Contador. Et surtout, il y a encore eu le spectacle tous les jours sur le Giro.
Exactement. Et j'ai vu qu'il s'était fait contrôler le vélo, mais on n'en parlera pas plus. Nico, ton extra time.
Ah bah, je vais rebondir sur du foot. On n'en a pas parlé dans les valeurs du sport cette semaine, mais je pense que le scandale de la FIFA vaut un bon gros débat, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière était assez hallucinant. Ça a fait la une de tous les journaux. Même ceux qui n'étaient pas 100% sportifs, donc c'est dire l'impact qu'a eu cette affaire et surtout ce qui peut arriver dans les semaines suivantes. Hein. parce que ça touche vraiment tout le système FIFA, à savoir les mondiales 2018-2022, mais également ce qui s'est passé en 2010 avec l'Afrique du Sud. On a appris aujourd'hui que l'Afrique du Sud avait donné 10 millions d'euros à la FIFA pour organiser, donc pour une voix. Enfin bon, bref, 98 est également remis en cause. Blatter a été réélu alors que Platini a tout fait pour qu'il ne le soit pas. L'UEFA veut se mettre en retrait et veut créer un mondial à sa sauce. Bref, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe en ce moment du côté de la FIFA.
C'est incroyable, mais est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'on ne s'en doute pas quelque part et on fait les vierges effarouchées alors que bon? Alors qu'on sait, ça fait longtemps que les dossiers sortent, ça fait longtemps que les rapports, notamment le dernier rapport Garcia, ben finalement ils l'ont pas sorti parce qu'on se rendait compte que ces deux dernières coupes du monde attribuées 2018 et 2022, ben il y avait Anguille sous roche et on faisait un petit peu l'autruche et là ça sort évidemment. Mais évidemment, les Américains savent faire, on connaît les Américains, ils savent faire ça au bon moment. Mais le problème c'est que Blatter, il a tellement arrosé tout le monde, toutes les fédérations, qu'elles sont toutes redevables et ça vote pour lui en Asie, en Afrique, il y a pas de problème. Donc il s'arrêtera quand il voudra, à moins que ce soit lui qui soit carrément inculpé par la justice. Et là c'est différent.
Oui, mais il peut y avoir ça, d'autres inculpations. Et à noter que Noël Le Graët, le président de la Fédération française, a voté pour Blatter.
Exactement.
Ça complique encore plus les choses. Enfin bref, il y a énormément de choses à dire sur cette affaire.
Ouais, fait l'autre candidat n'avait pas l'air bien plus. Avait l'air d'avoir d'autres intérêts aussi.
Il est président de sa fédération à l'âge de 24 ans.
Il était prince ou je ne sais quoi. C'est quoi ces histoires là?
Président de sa fédération.
Ouais, non mais n'importe quoi.
À 24 ans.
Bon, on ferme la boutique, Nico, c'est trop tard. Radio Vélo, c'est 20h-21h. Et Il va avoir du sport, revient lundi prochain. Ciao Nico, à tout de suite.
Salut.
Salut à tous.